La chlamydia et la gonorrhée sont les infections bactériennes transmissibles sexuellement les plus communes au Canada. Et elles sont en hausse depuis plusieurs années. Il arrive assez souvent que les personnes infectées n'aient pas de symptômes. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de cas qui ne sont pas identifiés. Mais même quand elles sont asymptomatiques, la chlamydia et la gonorrhée, non traitées, peuvent avoir de sérieuses conséquences. Je suis la docteure Delphine Grinspan, éditeure associée pour le journal de l'Association médicale canadienne. Je discute aujourd'hui avec la docteure Guylaine Thériault, une des auteurs de la nouvelle ligne directrice sur le dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée en médecine de soins primaires. Bonjour Guylaine.
Bonjour Delphine.
Guylaine, tu es médecin de famille. Comment es-tu devenue membre du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs?
En fait, c'est ça. Moi, je suis médecin de famille depuis plusieurs années. Je travaille en Outaouais. Je fais de la clinique aussi de la santé publique. J'enseigne aux étudiants, aux résidents. Et à travers tout ça, j'ai développé un intérêt pour la prévention et le dépistage. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai joint le groupe d'études canadien. Et puis, comme tu l'as dit, je suis ici aujourd'hui parce que je suis une des auteurs de cette ligne directrice-là.
Et j'ai mentionné dans l'introduction que la chlamydia et la gonorrhée sont les ITS les plus communes au Canada. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur prévalence?
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a deux façons de répondre à cette question-là. Si on commence par parler des taux qui sont rapportés, donc on sait que Santé Canada tient compte des cas qui sont rapportés au Canada et on a des données qui datent de 2018 à ce sujet-là. Donc, on voit que chez les personnes de 15 à 29 ans, c'est vraiment le groupe où on trouve le plus de chlamydia, avec des taux rapportés qui sont de 1 à 2 %, donc 1 à 2 personnes sur 100. Tandis que pour la gonorrhée, dans ce même groupe d'âge-là, on parle de taux d'environ 2 à 3 personnes sur 1000. Donc, on voit que la gonorrhée est moins fréquente que la chlamydia. Et ça, c'est vrai à travers tous les groupes d'âge. Là, j'ai parlé des 15 à 29 ans. Puis si on regarde maintenant chez les plus de 30 ans, bien on voit que les taux diminuent grandement, là, de plus de la moitié. Donc vraiment, chez les 15 à 29 ans, et c'est important pour comprendre la recommandation que l'on fait, là, c'est vraiment ce groupe-là qui représente les individus où ces maladies-là sont plus fréquentes. Et en plus, on sait que les taux rapportés de ces maladies-là augmentent. Là, depuis plus de 15 ans, là, ça augmente à chaque année. Fait que tantôt, au début, j'ai dit ça, c'est les taux rapportés. Hein? Mais on sait qu'il y a plusieurs infections, comme tu l'as dit au début dans l'introduction, qui sont asymptomatiques. Puis on sait qu'il y a des personnes aussi qui, même lorsqu'ils ont des symptômes, font le choix de ne pas consulter. Donc, on estime que le taux réel de chlamydia chez les 15-29 ans est aussi élevé que 5 à 7 %. Donc, 5 %, là, ça représente une personne sur 20 de 15 à 29 ans qui, dans cette période de vie-là, aurait une infection en chlamydia. Donc, on trouve que c'est quand même appréciable.
Oui, tout à fait. Et tu nous as dit d'ailleurs qu'il y a des gens qui, quelquefois, hésitent à consulter. Mais en fait, pourquoi consulter? Quelles sont les complications à long terme d'une chlamydia ou d'une gonorrhée quand elle n'est pas traitée?
Encore là, pour répondre à la question, il faut répondre en deux temps parce que les complications sont différentes selon le sexe de la personne infectée. Donc ici, quand on parle de sexe, on parle de l'anatomie sexuelle à la naissance. Si on commence avec les femmes, la complication la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la maladie inflammatoire pelvienne. C'est quand même assez fréquent. Alors, chez les cas qui ne sont pas traités, on a cette complication-là d'environ 10 à 16 % des cas. Ce qu'on peut voir aussi, toujours chez les cas non traités, c'est des douleurs pelviennes chroniques qui sont assez fréquentes aussi parce qu'on parle de 3 à 8 % des cas. Puis quand on dit douleurs pelviennes chroniques, on parle d'une durée de plus de 6 mois. Alors, c'est quand même pour la personne là, quelque chose qui est important. Les deux autres complications qu'on voit, c'est l'infertilité. Et ça, jusqu'à 5 % des cas non traités. Et les grossesses ectopiques, là, avec leurs complications aussi, qui sont jusqu'à 2 % des cas non traités. Donc, ça fait beaucoup de chiffres, là, mais on voit qu'il y a quand même un impact important d'une chlamydia ou d'une ITS là, non traitée. Fait qu'on a parlé des femmes. Si on parle des hommes, la complication la plus fréquente, c'est l'épididymite avec 7 % des cas non traités et l'urétrite dans 3 % des cas. Il est décrit des cas d'infertilité chez les hommes suite au non-traitement de ces maladies transmissibles-là, mais le taux est tellement faible que c'est très rare en fait. Alors, c'est difficile de donner un chiffre là-dessus. Donc, globalement, j'espère que vous comprenez là, que les complications et les conséquences de ces complications-là, le fardeau est surtout pour les femmes.
Oui, on y reviendra, c'est un aspect important. Mais on a parlé des complications, mais en fait, est-ce que c'est difficile à traiter? Quel est le traitement pour la chlamydia et est-ce que c'est le même pour la gonorrhée?
En fait, non, ce n'est pas difficile à traiter. Hein. Pour les cliniciens qui nous écoutent, là, ce sont des antibiotiques. En fait, le groupe d'études ne fait pas de recommandations spécifiques sur les traitements, mais on reconnaît là, que pour qu'un dépistage soit efficace, effectivement, il doit être suivi d'un traitement. Donc, il y a des sources provinciales qui peuvent permettre de bien choisir des traitements. Des fois, même des sources régionales hein, qui vont pouvoir tenir compte des résistances, par exemple pour la gonorrhée surtout. On a une source aussi au niveau canadien de l'Agence de santé publique du Canada et il y a des traitements qui sont recommandés. Un traitement qui est connu là, pour la chlamydia, c'est l'azithromycine 1 gramme en dose unique. Mais il y en a d'autres dans certaines circonstances qui peuvent être privilégiées. Donc, moi, je vous suggère de consulter ces ressources-là et de se rappeler, par exemple, d'un principe qui doit être clair pour tous, c'est que quand on a un cas de gonorrhée, bien, on traite et pour la gonorrhée et pour le chlamydia, parce qu'il y a très souvent, là, jusqu'à 40% des cas de gonorrhée, il va y avoir une co-infection avec le chlamydia. Donc, on recommande de traiter les deux en même temps.
Tout à l'heure, tu nous as parlé des patients qui n'ont pas de symptômes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la proportion des cas asymptomatiques par rapport aux cas symptomatiques?
Donc, on n'a pas de données exactes, mais en ce qui concerne la chlamydia, on sait que plus de 50% des cas sont asymptomatiques. Donc, c'est quand même beaucoup. Pour la gonorrhée, c'est plus souvent symptomatique, mais il y a quand même un nombre non négligeable de cas qui sont asymptomatiques. Donc, c'est pour ça, ça aussi, c'est important à retenir pour bien comprendre la recommandation quand on va l'énoncer tout à l'heure. Et peut-être juste une petite chose que je peux rajouter, c'est que la maladie pelvienne inflammatoire qu'on a vue, qui était quand même une conséquence importante pour les femmes, est plus fréquente là, avec la gonorrhée que la chlamydia, et que ce soit symptomatique ou pas.
Et alors justement, pour en revenir aux recommandations, le groupe d'études s'est basé sur une analyse systématique des données pour définir ses recommandations. Alors en conclusion, quelle est la recommandation relative au dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée?
Donc, en fait, la recommandation, c'est vraiment d'offrir un dépistage de façon opportuniste à toutes les personnes de moins de 30 ans qui sont actives sexuellement. En fait, ça vise toutes les personnes de ce groupe-là, peu importe leur niveau de risque. C'est sûr que si vous identifiez comme clinicien une personne qui est plus à risque à cause de ses comportements, par exemple, des relations sexuelles non protégées ou avoir eu une ITS dans le passé, bien là, il se peut que vous vouliez élargir un peu le type de dépistage que vous faisiez, la fréquence aussi de ce dépistage-là. Il y aurait peut-être d'autres choses que la chlamydia et la gonorrhée, mais ça dépasse la ligne directrice. Nous, ici, c'est vraiment de dire on devrait dépister tout le monde qui a en bas de 30 ans, même si on considère qu'ils ne sont pas à risque d'avoir ces maladies-là. Donc, on recommande ce dépistage-là à l'aide d'un échantillon. Qui peut être prélevé par le clinicien, mais qui peut aussi être simplement un auto-prélèvement là, par le ou la patiente. Donc, c'est vraiment ça la recommandation. La recommandation, elle est considérée conditionnelle. Hein. La façon dont on fait nos recommandations, nous, elles peuvent être fortes ou conditionnelles. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut mettre une recommandation conditionnelle. Mais dans ce cas-ci, de cette ligne directrice-là, c'est vraiment parce que les données probantes qui sont à la base de la recommandation, globalement, là, sont de faible qualité. Donc, ça nous donne une certitude qui est quand même faible, mais assez présente quand même pour faire la recommandation de dépister là, toute cette population-là.
Merci. Et alors justement, en essayant de comprendre la population que vous avez décidé de définir, vous recommandez le dépistage parmi les personnes qui ont moins de 30 ans. Pourquoi 30 ans?
Ben, en fait, pour deux raisons. Une que j'ai quand même expliquée au début, hein, c'est le groupe où l'épidémiologie nous démontre où la maladie est le plus importante, la plus fréquente, en fait. Et aussi parce que dans les études qui sont sous-jacentes à la recommandation, c'était la population qui avait été identifiées et analysées. Encore là, hein, dans ces études-là, à cause de l'épidémiologie là, actuelle de ces maladies-là.
Et alors justement, c'est les personnes qui ont moins de 30 ans et qui sont actives sexuellement. Alors comment est-ce que vous définissez l'activité sexuelle dans ce contexte?
Alors, on a pris une définition qui est assez simple, là. On constate qu'une personne est sexuellement active si elle a déjà eu une relation sexuelle, que ce soit orale, vaginale ou anale. Alors, c'est simple. Pourquoi? Parce que ça permet de faciliter la mise en place de la recommandation et aussi parce que cette définition-là concorde avec les études là, qui ont été trouvées là, pour faire cette recommandation-là.
Et l'autre aspect, c'est que le groupe d'études recommande le dépistage aussi bien des hommes que des femmes. Tu nous as un petit peu parlé déjà des symptômes qui diffèrent chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette recommandation de dépister aussi bien les hommes que les femmes?
Oui, en fait, c'est simplement parce qu'on reconnaît que la transmission se fait entre des partenaires sexuels et que dans ce cycle de transmission-là, ben, les hommes sont présents. Donc, même si on a vu qu'il y avait moins de complications chez les hommes, le dépistage des hommes permet de réduire la transmission, donc de réduire les complications chez les femmes, qui, on a vu, là, sont plus importantes là, dans ce groupe de population.
Et alors, à quelle fréquence est-ce que le dépistage est recommandé?
OK, alors ça, c'était pas facile parce qu'on a été obligé de regarder des données qui sont quand même indirectes parce que les données probantes étaient vraiment pas claires. On recommande un dépistage à une fréquence annuelle. Mais encore là, annuel, mais pas nécessairement de façon stricte. Il faut considérer la faisabilité parce qu'on sait que dans ces jeunes-là, hein, les jeunes de 15 à 29 ans, ils ne vont pas consulter aussi fréquemment qu'à chaque année. Donc, on ne va pas nécessairement faire venir un patient juste pour son dépistage, mais on va saisir toutes les occasions possibles. Donc, un patient qui consulterait parce qu'il a une douleur au dos, qui n'a pas eu de dépistage depuis dans la dernière année ou ça fait plus qu'un an, ben, on lui offrirait le dépistage. On considère que beaucoup des consultations en soins primaires peuvent très bien se prêter là, à cette discussion-là de dépistage et offrir le dépistage. Bien sûr, on sait que dans certains cas, un clinicien va peut-être dire que ce n'est pas le moment là, dans des consultations qui pourraient être, par exemple, très chargées émotionnellement, avec des problèmes de santé mentale, etc. Mais sinon, toute consultation là, peut très bien se prêter à une offre de dépistage.
Donc, un dépistage opportuniste régulier, aussi régulier que possible. Alors ensuite, quand on regarde de près, dans les lignes directrices, le groupe d'études dit bien qu'il y a moins de données disponibles au sujet du dépistage de la gonorrhée qu'au sujet de la chlamydia. Mais le groupe d'études recommande tout de même le dépistage pour la gonorrhée. Pourquoi?
Alors, c'est tout à fait vrai qu'il y a très peu, sinon pas de données probantes sur le dépistage de la gonorrhée, mais on recommande de faire les deux pour différentes raisons. Donc, premièrement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de cas où les deux infections sont présentes ensemble, alors autant pour la gonorrhée que pour la chlamydia. Deuxièmement, ben, on l'a aussi mentionné, il y a un nombre non négligeable d'infections qui sont asymptomatiques. Mais surtout aussi parce que le test qui est présentement utilisé au Canada réalise les deux analyses là, d'emblée là, sur le même spécimen. Donc, on n'a pas besoin de prendre deux prélèvements, on en prend seulement un.
Donc, le dépistage est recommandé toutes les années, mais comment est-ce que vous recommandez de le faire?
Mais en fait, il y a deux façons de faire le dépistage. Bien sûr, le clinicien lui-même peut faire un dépistage. Donc, à ce moment-là, on parle de prélèvement au niveau du col. Ça pourrait être fait, par exemple, lorsque la personne consulte pour un pap test ou un examen gynécologique pour une autre raison. Mais on est très clair qu'on ne veut pas que ça soit limité seulement à ces types de consultations-là. Donc, on veut que ça soit beaucoup plus opportuniste dans n'importe quel type de consultation. Donc, il y a les auto-prélèvements. Alors, ce sont par exemple, chez la femme, un écouvillon vaginal et chez l'homme, un prélèvement d'urine. Ce sont les patients eux-mêmes qui réalisent ce test-là et on croit que l'acceptabilité de ces tests-là serait probablement plus grande là, que pour les prélèvements effectués par le clinicien. Donc, il y a différentes options. Probablement privilégier les autoprélèvements, mais dans certains contextes de consultation, là, le prélèvement au niveau du col par le clinicien est tout à fait acceptable. La façon dont moi je fonctionne, quand j'ai le patient, quand on discute et on dit OK, le patient accepte d'être dépisté, je lui donne simplement l'écouvillon si c'est une femme ou le pot d'urine si c'est un homme avec une requête en fait. Il va dans la chambre de bain et le laisse à la secrétaire avant de sortir et ça se termine là.
Et alors, dans ces lignes directrices, il y a toute une section sur les risques de préjudice qui pourraient être liés au dépistage, ou qui, en tout cas, les préjudices qui pourraient être craints liés au dépistage. Quelles sont les situations dans lesquelles un médecin ou un patient pourrait décider de ne pas faire de test de dépistage?
Mais en fait, la façon, on regarde premièrement pour déterminer les préjudices potentiels, on regarde la littérature, puis on a aussi un groupe de patients là, qu'on consulte et qu'on écoute en fait sur ces problématiques-là. Et les deux préjudices les plus fréquents, c'est les faux positifs et les conséquences psychologiques ou sociales de subir un dépistage. Donc, on parle de sentiments de honte, de culpabilité. Ça pourrait être une barrière à l'acceptabilité du dépistage pour certaines personnes. Donc, on recommande aux cliniciens d'être à l'affût de ça, de pouvoir écouter ces inquiétudes-là de la part de leurs patients. Mais on pense que la recommandation qui dit de dépister tout le monde viendrait peut-être contrecarrer un peu ces sentiments-là parce que ça diminuerait le sentiment là, de stigmatisation.
Et justement, les lignes directrices mentionnent aussi l'importance pour le médecin traitant d'obtenir un consentement éclairé de son patient. Les tests positifs sont signalés à l'unité locale de santé publique, qui pourra ensuite demander au patient la permission de contacter sa, son ou ses partenaires sexuels. Est-ce que tu peux nous parler du consentement éclairé dans le cas particulier du dépistage des ITS?
Oui, en fait, le consentement éclairé, c'est important. Ça fait partie de notre recommandation. Puis, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour adresser les sentiments de culpabilité, de peur, de gêne qui peuvent être liés à ce dépistage-là. Et expliquer aussi, comme vous l'avez dit, que les résultats sont rapportés à la santé publique. Bon, selon les régions, là, ça peut être différent. Des fois, la santé publique va contacter certains groupes de patients pour les aider à identifier leur partenaire. Des fois, ça va être le clinicien aussi qui va faire ça avec son patient. Mais les patients doivent être au courant de ces démarches-là, là, avant d'accepter le dépistage. Parce que des fois, pour certaines personnes, ça pourrait entraîner certains problèmes interpersonnels ou certains problèmes de couple. Donc, sans entrer dans une discussion très longue, je pense qu'il est facile de partager ces informations-là avec notre patient là, avant qu'il soit dépisté.
Guylaine, merci beaucoup d'avoir discuté avec moi aujourd'hui.
Ça m'a fait grandement plaisir. Au revoir.
Au revoir. Je discutais avec la docteure Guylaine Thériault, médecin de famille et membre du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. Vous pouvez lire les lignes directrices du groupe d'études sur notre site web cmaj.ca. Je suis la docteure Delphine Grinspan, éditeur associée pour JAMC. Merci d'avoir été à l'écoute.